Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet.
Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle.
Ses frères lui dirent
« Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?»
Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères.
« Voici, leur dit-il, j'ai fait encore un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. »
Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit
« Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?»
Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph «
Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. »
Joseph répondit
« J'y vais. »
Son père lui dit
« Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. »
Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.
« Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans la citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. »
Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph.
Il dit « Ne portons pas atteinte à sa vie. »
Il ajouta «
Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. »
Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils s'aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères
« Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. »
Ses frères furent d'accord, et lorsque les champs madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 25 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit
« Le garçon n'est plus là, que vais-je faire maintenant ?»
Alors, ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant
« Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?»
Jacob la reconnut et s'écria
« La tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. »
Alors, il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils.
Continuons cette série sur la Genèse. Alors, on ne cherche pas à rivaliser avec les séries de Netflix ou d'autres, mais quand même, cette série est passionnante. La trame est absolument magnifique. Les efforts, et la trame, c'est les efforts du personnage principal, Dieu, Yahvé, Elohim, qui, par amour, cherche à faire alliance avec les hommes et les femmes, et cela malgré leur évidente mauvaise volonté. Mauvaise volonté. Dans son amour et sa fidélité, Dieu fait alliance avec Adam, malgré la rupture, malgré cette folie d'Adam et Ève de se dire qu'ils pourraient être comme des dieux, comme Dieu. Il fait alliance avec Noé, il fait alliance avec Abraham, et avec Abraham, il va même faire une promesse de bénédiction qui irait jusque toutes les nations, et on sent que dans cette promesse de bénédiction, il y a beaucoup plus que le côté local, régional, municipal d'Abraham et de sa famille, mais que ça s'adresse aux nations, au monde entier, une promesse de bénédiction qui va bien au-delà d'Israël. Mais alors, dans cette série, il y a quand même parfois des erreurs de casting. Je ne sais pas si vous avez essayé de reconnaître chaque image avec les peintures de Chagall, mais une des erreurs de casting qu'on pourrait reprocher au scénariste de l'histoire, ce n'est pas le scénariste, c'est celui qui fait le réalisateur, c'est Jacob. On en a parlé les deux derniers dimanches, où je parlais. Jacob le trompeur, Jacob le manipulateur, on se demande vraiment ce qu'il fait dans cette histoire. Comment dans cet être aussi, on va dire, tourmenté, pourrait se réaliser la promesse de Dieu, d'une bénédiction pour le monde entier. Mais Dieu vient à sa rencontre de Jacob le tordu, le manipulateur, il se révèle à lui, il lutte avec lui, et on retrouve ce Jacob Israël, c'est la même personne, installé au pays, à Canaan. Il a enfin cessé de fuir. C'était un homme, un manipulateur, mais toujours en fuite pour fuir ses mensonges. Maintenant, il est installé, puis il va faire quelque chose d'assez intéressant. Dans l'histoire, il va faire des enfants. C'est une chose intéressante à faire. Et il va en faire quelques-uns. Il va avoir 12 fils, et certainement beaucoup plus de filles. Mais 12 fils, en tout cas, mais avec 4 femmes, Léa, Rachel, et puis les deux servantes de ces deux femmes respectives. On a une famille, on ne va pas dire recomposée, mais une famille surcomposée. Une famille hyper composée, d'ailleurs. Il y en a, ça vient de partout. Alors il faut savoir que ces 12 garçons vont constituer les fameuses 12 tribus d'Israël, mais nous n'en sommes pas encore là pour l'instant. On est en Canaan avec une famille nombreuse et tout se passe extrêmement bien. Nous l'avons lu tout à l'heure. L'ambiance est excellente, très familiale. Tout le monde s'aime et rend des petits services à ses parents, à ses frères et à ses sœurs. Le chapitre 37 que nous avons lu tout à l'heure, que le Quatuor a lu tout à l'heure, nous parle de la famille idéale, n'est-ce pas ? Non, on sent qu'il y a une tension énorme dans cette famille. Une tension à couper au couteau entre les fils de Jacob. Une tension autour d'un objet assez particulier, une tunique. Tension familiale autour d'une tunique. Et cette tunique, c'est un peu le fil rouge de l'histoire, parce que vous l'avez entendu, à la fin, le père Jacob retrouve la tunique ensanglantée de Joseph. On part de la tunique, on y revient à la tunique. C'est le fil rouge de l'histoire. Mais ce qui frappe dans ce texte, c'est de voir que tout est fait, tous les personnages font tout ce qui est possible, tout ce qui est en leur pouvoir pour alimenter la tension, au lieu de l'apaiser. On ne sait pas si c'est de la maladresse ou de la naïveté, mais tous les protagonistes font tout ce qu'ils peuvent pour créer la tension. Au niveau des comportements, je ne sais pas si vous l'avez perçu lors de la lecture, mais au niveau des comportements, c'est un peu du grand n'importe quoi. Un peu comme parfois dans nos familles. un peu chaotique, un peu du grand n'importe quoi, quand les émotions prennent le pas à la fois sur la raison et sur l'amour. Alors pour cette première partie, on pourrait donner comme titre, un titre un peu ironique, « Comment créer et alimenter les tensions dans une famille, dans un groupe ?» En quatre leçons. Première leçon, savoir faire preuve de favoritisme. Ça ne rate pas. Israël aimait Joseph beaucoup plus que les autres. Une préférence marquée, puisqu'il va donner la tunique, une tunique particulière à Joseph. Alors on a beaucoup parlé de cette tunique dans les commentaires. Certains lui donnent le nom de tunique multicolore ou tunique bigarrée, mais c'était surtout une tunique à longues manches, à manches longues. Et alors, ça vous laisse pantois, mais à l'époque, porter une tunique à manches longues, ça signifiait, j'ai un peu de mal à parler ce matin, que tu n'avais pas besoin de travailler. Celui qui porte la tunique à manches longues n'a pas besoin de travailler. Les Bédouins disent que dans toutes les tribus, seules deux personnes peuvent porter les tuniques à manches longues, le cheikh de la tribu, le cheik de la tribu, et l'homme qu'il a choisi comme héritier. L'héritier n'a pas besoin de travailler et peut donc porter la tunique à manches longues. Et donc, pour les frères, c'est pas juste de la jalousie puérile qui les animait, c'est une colère compréhensible, parce que leur frère, Joseph, a tout pris. Il n'a pas besoin de travailler. C'est l'héritier. Et en plus, c'est pas l'aîné, quoi. C'est l'avant-dernier, même. Il a tout pris. Et si on se met du côté de Jacob, on peut comprendre sa préférence pour Joseph, parce qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, et au lieu d'avoir Rachel, il a eu Léa, qu'il n'aimait pas spécialement. Alors il a retravaillé 7 ans pour avoir Rachel, et donc le premier fils de Rachel, Joseph, c'est son préféré. On peut le comprendre. D'autant que s'il avait épousé tout de suite Rachel, c'est son fils à elle qui aurait été l'aîné, ça aurait été Joseph, et donc lui l'héritier. Donc en donnant la tunique à Joseph, Jacob montre sa volonté qu'il le veut comme héritier, et non seulement l'héritier de ses biens, mais aussi de la promesse. On peut comprendre Jacob et sa préférence à Joseph. Mais la marquer comme ça, par cette tunique, c'était peut-être pas utile. Le résultat est en tout cas désastreux. Il ne faut pas faire de favoritisme. Le père ne doit pas faire de favoritisme. La mère ne doit pas faire de favoritisme. Les parents ne font pas de favoritisme. Et cela, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant ou le retour sur investissement que l'enfant pourrait apporter, ou pour les parents chrétiens, quelle que soit la foi de leurs enfants, pas de favoritisme. Nous sommes pas de favoritisme parce que Dieu, notre Père, n'en fait pas. Nous sommes tous à égalité devant Dieu, nous sommes tous aimés de la même manière et appelés à aimer aussi, sans favoritisme, sans faire de faveur. Ou en tout cas, à essayer de le faire. Leçon 2, comment créer et alimenter les tensions dans la famille, faire preuve de favoritisme. Deuxième leçon, ne pas hésiter à montrer de l'arrogance. Et là, on parle de Joseph. On est sidéré par l'attitude de Joseph. Non seulement il rapporte les propos de ses frères à son père, donc c'est un rapporteur, mais surtout, il va raconter des rêves qu'il a eus qui sont en leur défaveur et en sa faveur. Des rêves où il se prosterne tous devant lui. Alors on se dit, Joseph, c'est un grand naïf. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que de l'effet dévastateur de la narration de ses rêves auprès de ses frères aînés? Alors, il a effectivement rêvé de cela, et ses rêves vont devenir réalité pour le bien de tous, y compris de ses frères. L'histoire nous le dira, mais quelle idée de leur raconter! Ma sœur me racontait tous les matins, ma sœur aînée me racontait tous les matins ses rêves. Mais pour Joseph, quel manque de sensibilité et d'humilité. Et même si Joseph est encore jeune, on ne peut pas ne pas penser qu'il était, enfin, on ne peut pas penser qu'il était simplement naïf. Il y a vraiment de l'arrogance dans l'attitude de Joseph, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Et l'arrogance, quels que soient les dons que l'on a reçus, quelle que soit la place que l'on occupe dans la société, ne fait qu'alimenter les tensions. À tous les niveaux. À regarder, et Jésus, lui, nous appelle, au contraire, à l'humilité, à regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, à rechercher l'intérêt des autres plutôt que les nôtres. Joseph, lui, a fait preuve d'arrogance et couplé au favoritisme de son père, ça va créer, et ça c'est la troisième leçon, ça va créer un truc qui alimente les tensions énormes, c'est faire tout pour susciter la jalousie, ça va créer de la jalousie. Si on veut créer des tensions dans n'importe quel groupe, dans la famille ou dans les groupes humains, faisons tout pour susciter la jalousie. Alors on se dit, évidemment qu'ils sont jaloux. Ses frères étaient jaloux de lui. Comment ne pas être jaloux quand le père a marqué sa préférence d'une manière aussi nette ? Quand leur frère cadet leur raconte des rêves où ils sont dans une position inférieure, comment ne pas être jaloux ? Alors j'ai lu un article dans l'hebdomadaire Réforme, le journal protestant, qui nous parle de la jalousie et qui le définit comme « la jalousie est un ressenti parfaitement normal qui se forge dans la fratrie ». On est jaloux dès le départ avec des frères et des sœurs. Le sentiment apparaît dès qu'un frère ou une sœur arrive dans la famille. Oui, il y a de quoi ne pas être ravi d'avoir un concurrent dans la famille. L'aîné aimerait rester seul pour ne pas avoir à partager l'amour des parents. Il y a une petite fille, on raconte cette histoire d'une petite fille de 8 ans qui était la troisième d'une famille de 5 enfants et qui dit au cours d'un repas chez un couple ami de ses parents, qui dit au beau milieu du repas, au couple qui les invitait, « Elle a de la chance, votre fille, elle est toute seule. » Le cri du cœur d'une troisième dans une famille de 5. Mais il paraît aussi que l'enfant seul peut être jaloux de l'intérêt que papa accorde à maman, ou vice-versa. Bref, seul ou en tribu, on n'échappe pas à ce sentiment qui n'est pas que mauvais d'ailleurs, la jalousie. La jalousie est, paraît-il, une marque de l'intérêt que l'on porte à l'autre, un signe d'amour passionné parfois. Sans un peu de jalousie dans le couple, on se demande si l'amour existe encore. On dit aussi que d'un autre côté, la jalousie est un moteur de créativité. On cherche à en faire plus, à se surpasser en prenant exemple sur celui dont on est jaloux. Ouais, il y a de l'émulation avec la jalousie, il y a de bons côtés. Mais l'article dans Réforme nous parle positivement de cette jalousie à condition qu'elle soit reconnue, qu'elle soit exprimée, qu'elle soit discutée, qu'elle soit aussi distanciée. Qu'on puisse se distancier par rapport à cette jalousie. Sinon, la jalousie ronge de l'intérieur et pousse à des comportements extrêmes, comme dans le récit, qui nous parle de cette violence destructrice pour les frères de Joseph, qui finissent par tomber dans une parfaite haine. Ça, c'est la quatrième leçon pour alimenter les tensions d'une famille. Je suis sûr que vous prenez note de ces leçons. Leçon 4, laisser libre cours à la haine. Et on le voit dans le récit comment les frères s'enferment dans cette haine. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne pouvaient plus lui parler aimablement, verset 5. Ils le détestèrent de plus belle, verset 9. Ils complotèrent de le faire mourir, verset 9 aussi, verset 19, pardon. Et là, on voit l'escalade de la haine, l'enfermement dans la haine. La haine progresse. Chaque jour, ils ajoutent au dossier Joseph. Il y a un dossier commun pour les frères aînés. Chaque jour, ils ajoutent une fiche où ils tapent une information. Ils ajoutent une bonne raison de le haïr et ils en trouvent. Et vous savez comme moi que quand on ouvre un dossier de haine ou de rancœur sur quelqu'un, en particulier sur quelqu'un de proche, parfois même de très proche, il est très difficile de le fermer. Quand on ouvre un dossier et quand on l'alimente, quand on y ajoute chaque jour, il est très difficile de le refermer et de ne pas être enfermé dans le propre dossier qu'on a fait. Il est très facile de l'alimenter chaque jour encore plus et de se faire enfermer dans une haine féroce, tenace même, qui peut mener jusqu'à la violence. Et ça mène à la violence. On va s'en débarrasser, disent les frères de Joseph, le mettre dans une citerne et puis le vendre à des caravaniers et le faire passer pour mort à leur père. La haine qui mène à la violence extrême. On remarque quand même dans le récit, je ne sais pas si vous l'avez noté, qu'il y a un des frères, c'est le frère aîné. Pourtant celui qui a tout perdu dans l'histoire de Joseph, de cet avantage donné à Joseph, Ruben, le frère aîné, le fils aîné de Léa, la première femme de Jacob, va essayer d'arranger les choses. Il va essayer de ne pas se laisser enfermer par sa haine. Il résiste à l'envahissement de la rancœur. Comme quoi, on n'est pas obligé de suivre la haine du groupe. Et je crois que c'est important aujourd'hui de ne pas suivre la haine du groupe. Mais malgré tout, Ruben, son désir de sauver son petit frère reste un petit peu discret, malgré tout. On pourrait la juger un peu faible. Veuillez éteindre vos portables. C'est l'ambulance. Là. Voilà donc comment créer des tensions dans une famille. Et on pourrait se poser la question dans cette histoire. Il semblerait qu'il y ait un grand absent. Et Dieu dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, quand on lit ce récit, on a deux impressions. On peut avoir deux impressions. La première, c'est que ce serait vraiment du grand n'importe quoi, la préférence de Jacob. Jacob qui vient rapporter les mauvaises paroles de ses frères, les rêves dits comme cela sans aucune sensibilité, les frères jaloux, haineux, tueurs. Un grand marmite aux émotions, à la colère, à la haine, au ressentiment, à la jalousie, etc. Puis, une autre impression, je ne sais pas si vous l'avez eue quand nous l'avons lue, c'est que toutes ces émotions, toutes ces réactions négatives semblent faire partie d'une autre histoire, d'une grande histoire qui viendrait d'en haut, qui viendrait de Dieu, que Dieu utiliserait ces circonstances pour réaliser son projet en intégrant toutes ces faiblesses humaines, mais sans les justifier pour autant. La haine, la jalousie, les traitements de faveur sont négatifs et destructeurs, mais Dieu les englobe, ou Dieu, on va dire, les transcende pour accomplir son projet bienveillant, pour que son projet d'amour se réalise, pour que son projet d'alliance, son projet de bénédiction des nations se réalise, on va dire, malgré tout, mais aussi avec tout ça. On voit que Jacob, d'ailleurs, le perçoit à un moment. Il va reprocher à Joseph d'avoir dit cela, ses rêves, etc. Il va remarquer que les frères sont jaloux, mais il va dire aussi, ou le narrateur en tout cas, que Jacob retient ces choses dans son cœur, comme s'il percevait qu'au-delà de la maladresse de Joseph, son fils, avec ses rêves, etc., il y a l'histoire de la bénédiction de Dieu qui est en marche. C'est encore une fois l'œuvre de Dieu dans tout son mystère, le mystère de la grâce, le mystère de son amour, le mystère aussi de la souveraineté de Dieu sur l'histoire, sur cette histoire et sur mon histoire et sur votre histoire. Lui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son projet bienveillant. Romains 8, 28. Lui qui trouve dans les cœurs parfois tortueux des chemins tout tracés, pour citer le psaume 84. Il y a aussi un proverbe portugais, je ne connais pas beaucoup de proverbes portugais, il y a des tonnes certainement, mais qui a été repris par Paul Claudel et qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Avec nos lignes courbées, avec nos histoires courbées, recourbées, tordues, tortueuses, Dieu fait des lignes droites. Avec nos cacophonies dans nos vies, Dieu peut faire quelque chose d'harmonieux. Et la suite de l'histoire de Joseph, c'est pas fini, il y a encore 15 chapitres de son histoire, ou 14, va le montrer de manière éclatante que Dieu, dans sa souveraineté, fait concourir même les jalousies entre frères à l'accomplissement de son projet bienveillant. On ne va pas en parler maintenant, suite au prochain épisode de la série, mais je voudrais pour terminer, alors faut faire attention quand un prédicateur dit pour terminer, parce que c'est jamais la fin en fait, mais quatre applications tout à fait directes pour vivre nos tensions à nous, dans nos familles, dans nos groupes d'amis, sur notre lieu de travail, dans l'église, dans les comités, etc. Quelles solutions pour les tensions ? Et la première de ces solutions, de ces pistes à suivre, vous les prenez ou vous ne les prenez pas, mais je crois que la Bible enseigne aussi des choses tout à fait pratiques à travers ces histoires, c'est de faire attention à ce que l'on dit. Et là, on pense à Joseph et à ce rapporteur qui rapporte les mauvais propos de ses frères et puis qui parle de ses rêves humiliants pour les autres. Il aurait mieux fallu, excusez-moi l'expression triviale, qu'il se la ferme, qu'il se taise. Et la parole de Dieu nous parle abondamment de la nécessité, non pas de la fermer, mais de maîtriser notre outil de communication qui est la langue. Jacques, l'apôtre Jacques, la compare à un allume-feu, à un bout de feu. On peut utiliser la bouche pour mettre le feu, pour alimenter la tension, mettre le feu aux poudres, le feu à la maison, le feu dans les relations. Alors, ce qui est intéressant avec Joseph, c'est qu'il a effectivement eu ses rêves. Et qu'il pourrait dire qu'il ne dit que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que toute la vérité est bonne à entendre, surtout ma vérité. Ma vérité de Joseph qui a fait ce rêve, qui malgré tout reste quelque chose d'assez subjectif, enfin bref. Et sans avoir aucune sensibilité à l'égard des autres. Et il pose la question très actuelle. Joseph, il y a 3500 ans, non plus, bref, pose la question très actuelle de la franchise dans nos paroles, de la communication, de l'authenticité, pardon, de la transparence. Ce sont des valeurs qui sont très prisées aujourd'hui. Il faut être authentique, il faut être franc. Oui, mais souvent qui mènent à la méchanceté et qui sont tellement idolâtrés qu'on devient méchant, insensible, égocentrique. Je dis ce que je pense. Et si ça te fait mal, c'est le même prix. Et en général, l'autre, il prend cher. Il prend très cher. Et la Bible nous parle de la maîtrise de la parole, que ce soit les mots qui sortent de la bouche ou les mots qui sortent du clavier. C'est toute notre communication qui doit être placée sous l'obéissance de l'Esprit, qui dans Galates 5, 22 comprend la maîtrise de soi, la maîtrise de sa communication, de ses paroles. Deuxième piste à suivre en cas de non pas alimenter les tensions, mais les apaiser et les calmer, gérer directement les petites offenses, avant que cela ne dégénère. On le voit dans cette histoire, tout commence par un petit rien, par une tunique, par des rêves, et puis ça dégénère et ça se transforme en fiasco relationnel total. On aurait pu, Jacob aurait pu, Joseph aurait pu, les frères auraient pu et auraient certainement dû gérer le problème dès le départ quand il était encore gérable. Avant de s'enfermer dans la haine, il ne faut pas laisser les petites souris devenir des éléphants alors que la tempête est encore dans un verre d'eau. Il me semble que c'est ce que dit Jésus dans son sermon sur la montagne quand il dit « Écoute, si tu présentes ton offrande à l'autel, dans le temple, et que tu te souviennes là, alors que tu es en train de faire un acte religieux, spirituel, exceptionnel, que si là, devant cet autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, oh oui, ah, j'ai un problème relationnel. Laisse là ton offrande, dit Jésus. Laisse là ton offrande. Quitte le temple et va d'abord te réconcilier avec ton frère, dès le départ. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, dit Jésus encore, de peur qu'il ne te livre au juge, à la police, et puis que tu sois jeté en prison, avant qu'il y ait cet enfermement. Et à mon avis, quand Jésus parle ainsi, c'est l'idée d'urgence et de rapidité qui, dans cet appel à la réconciliation qui est le plus important. Réagis avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu sois complètement enfermé dans la prison de la haine. Va et arrange-toi avec ton frère, ta sœur, avant que la situation ne soit trop fermée. Ne laisse pas la haine ou la colère ou encore l'amertume t'enfermer dans n'importe quelle prison intérieure. Ça, c'est le conseil, pas de moi, mais le conseil de Jésus hein, dans Matthieu 5. Gérer directement les petites offenses. Et puis, mettre un terme rapidement à la colère et à l'amertume. On retrouve dans cette phrase la même idée de rapidité. Mais avec une autre donnée rapide à sortir. Trouver vite une sortie de crise. Mettre un terme, mettre une fin. Et comme base, nous avons ce verset de l'épître de Paul, l'apôtre Paul aux Éphésiens, un verset que tous les colériques apprécient. Parce que ce verset commence par dire « Mets-toi en colère ». Et non pas si vous vous mettez en colère, comme certaines versions l'ont, c'est possible. Mais il y a aussi cette possibilité de l'impératif « Mets-toi en colère ». Parce qu'il y a parfois de bonnes raisons pour la colère. Et l'article dans Réforme le disait que la jalousie est une réaction saine par rapport à une injustice, à une inégalité, à une préférence injuste. De même, la colère est parfois justifiée. Il y a des saines colères, des saintes colères. Mais l'apôtre Paul ajoute tout de suite, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a là aussi une rapidité, une promptitude à mettre fin, à mettre un terme à cette colère. Le meilleur moyen de mettre fin à cette colère, c'est par le pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Faites-vous grâce mutuellement, continue le texte. Pour ne pas la laisser dégénérer en mauvaise colère qui mène à la violence, verbale ou physique, ne te laisse pas enfermer dans ta colère, mais trouve une issue, une voie de sortie. La grâce de Dieu, ce mélange d'amour et de pardon que tu poses sur la situation. Dans les tensions familiales, rien de tel que la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on vit des tensions dans la famille ou dans le groupe, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans le texte de Joseph et de ses frères, il n'y en a pas beaucoup. C'est dire qu'il faudrait un miracle ou un événement exceptionnel pour que la grâce vienne un petit peu beaucoup, venir dans nos vies et dans nos relations. Dernière chose, et là c'est vraiment la dernière, renverser la tendance. On a vu la tendance est à la haine, à la jalousie, à la violence, aux réactions extrêmes. Et vous savez, ce genre de tension, il n'y a rien à faire pour l'alimenter. Elle s'auto-alimente. C'est l'effet boule de neige. Par contre, pour y mettre un terme, Jésus lui-même nous demande d'inverser la tendance, d'inverser la vapeur. Il va le dire dans son sermon sur la montagne, encore une fois, il va dire, c'est la perle de son enseignement, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est dans la loi. Aimer son prochain, oui. Haïr son ennemi, ah ouais, on peut, oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Et autre part, bénissez ceux qui vous maudissent. Dites du bien de lui. Priez pour celui qui vous veut du mal. Et ça nous semble tout à fait hors de portée. Et je vais vous dire un secret. Ce n'est pas un secret. Ça l'est. Hors de portée. Mais on a parfois tendance à dire que ce genre de phrase de Jésus, « Aimez vos ennemis », ça fait partie un petit peu de l'idéalisme de Jésus, de l'idéalisme chrétien, arrangé parmi les trucs un petit peu trop radicaux de Jésus. Tu sais, là, à ce niveau-là, Jésus, tu dérapes grave, quoi. C'est trop radical. Mais c'est Jésus qui nous en parle. Hein. Et c'est Jésus qui fait autorité dans notre vie. Et c'est Jésus qui nous montre l'exemple, comme le dit l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que, en tant qu'homme et pleinement homme, il bénissait ceux qui lui faisaient du mal, qu'insulté, il ne répondait pas à l'insulte, et qui va à la mort pour réconcilier le monde avec Dieu, pour réconcilier les hommes entre eux, pour réconcilier l'homme, la femme avec lui-même. Jésus renverse la tendance et il nous appelle à le faire par sa grâce et à sa suite. Et ça, c'est tout l'évangile. C'est pas si simple, mais c'est tellement fort. C'est l'évangile de la grâce. La grâce qui nous appelle à apaiser les tensions dans nos vies. À la réconciliation.